Gloire à Dieu, nous allons lire dans 1 Pierre 3, 18 à 20, et puis tout de suite nous allons prendre après Genèse 5, 32 et tout le chapitre 6. Nous lisons 1 Pierre 3, 18 à 20, qui est notre passage sur lequel on va revenir tout le long de la prédication et nous allons appuyer avec Genèse 5, 32 et tout le chapitre 6. Donc nous commençons par 1 Pierre 3, 18 à 20.
Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, soit à dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
Voilà ce que nous dit ce passage, que Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Pourquoi Pierre dit Jésus a souffert pour les péchés? Parce qu'il considère son état d'avant au ciel, dans sa royauté, et qui vient souffrir, qui se livre pour les péchés. Mais il se livre pourquoi? Pour le salut de l'humanité. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Lui, il était juste, mais il souffre pour des injustes. Ça va nous servir tout ça dans le développement afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui sont ces esprits, au fait, aux âmes en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Donc les gens, il s'agit des humains, il ne s'agit pas des esprits mauvais. Donc quand on dit les esprits, ça veut dire les âmes, qui autrefois avaient été incrédules, donc qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à quel moment? Lorsque Noé leur parlait de Dieu, de sortir de la génération perverse, en entrant dans l'arche, parce que Dieu allait détruire toute l'humanité. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Mais Dieu a été patient. Donc il est écrit, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc l'apôtre Pierre dit que Dieu a été très patient avec ces gens-là. Puisque lorsque nous on parle de Noé dans Genèse, qu'on va lire, on nous donne son âge à 500 ans. Et ensuite, lorsqu'il entre dans l'arche, il en a 600. Donc on peut supposer qu'il a mis environ 100 ans à construire l'arche. Donc c'est ce que le frère Pierre explique en disant, Dieu a été très patient. Donc pendant 100 ans, les gens pouvaient voir l'arche et se décider. C'était la patience de Dieu. Il dit, ces gens-là, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas cru. Et Jésus est parti leur dire, pourquoi vous n'avez fié cela? Et voilà, vous avez perdu la vie éternelle comme ça. Vous êtes maintenant livrés pour le jugement parce que vous n'avez pas cru. Et moi, je suis venu sauver le reste des gens qui vont croire. Voilà. Et il dit, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est ça notre thème aujourd'hui. 8 personnes. Seulement 8 personnes ont été sauvées. Rendons-nous compte de cela. Mais 8 personnes aussi de la même famille, ça montre la responsabilité des parents par rapport au salut des enfants. Ça montre la responsabilité d'un individu. Tu peux être aussi un enfant qui est sauvé le premier. Ça montre ta responsabilité par rapport à ta famille. C'est 8 personnes de la même famille. Donc il y a comme une prédication de Actes 16-31 dans cette affaire, puisqu'il est décrit dans Actes 16-31, « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 8 personnes, mais c'est seulement 8, c'est ça notre titre, 8 personnes. C'est pour nous interpeller, à prendre Dieu au sérieux, à prendre le salut au sérieux. Il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Dieu avait décidé de détruire cette humanité parce que la chair de l'homme, l'être humain, ne correspondait plus du tout à la pensée de Dieu et refusait de revenir à cette pensée-là. Dieu a dit, je veux détruire. 8 ont été sauvés. Cela veut dire beaucoup de choses. La première chose, c'est que s'il faut sauver qu'une personne, Dieu est prêt à cela. Que personne ne se méprenne là-dessus. Parfois, nous avons des arrière-pensées comme quoi, bon, Dieu ne peut pas quand même laisser des milliards de personnes aller en enfer. Mais nous nous trompons. Dans la population de l'époque, il n'avait pris que 8. Ils n'étaient pas 50, hein. Ils étaient plus que ça, c'était des villes. Mais lui, il n'en avait pris que 8. C'est ça notre thème. Nous allons lire le contexte, parce que l'apôtre Pierre est en train de parler d'une histoire qui a eu lieu du temps de Noé, dont revenons donc dans Genèse 5, 32 pour lire Genèse 5, 32 et tout le chapitre 6 pour lire cette histoire de Noé. Et nous reprendrons encore le passage de Pierre. Donc Genèse 5, 32, et ensuite le chapitre 6.
Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne sera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut, en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Amen. Donc Noé a obéi à Dieu, il a trouvé grâce devant le Seigneur, il a obéi. Nous voyons, il est écrit, donc la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence au verset 11. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Bien-aimé, Dieu le dit encore aujourd'hui, la fin de toute chair est arrêtée, mais il veut sauver. Voilà. Mais il a déjà décidé d'en finir avec la première création. Il a déjà décidé cela. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons négliger un message qui existe depuis le départ et qui continue aujourd'hui? Parce que le message que nous lisons sur Noé, Jésus lui-même l'a dit. Pareil, il a dit même que la fin des temps sera comme le temps de Noé. Donc Dieu a décidé de détruire tout. Et dans Apocalypse, on nous montre même comment il va détruire. Il a décidé de détruire et de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux avec de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui est là depuis le début de la Bible. Donc, on est dans Genèse à peine 6. Depuis le début de la Bible, c'est le thème qui revient jusqu'au bout. Que vous lisiez Daniel, que vous lisiez Ésaïe, c'est le même thème qui revient, que Dieu a décidé de tout détruire. Mais avant de tout détruire, il veut sauver d'abord. Et on nous donne une sorte de... d'aperçu de cette affaire avec l'histoire de Noé. Donc l'histoire de Noé et l'histoire de Lot sont des moyens pour nous de comprendre tout ça. Parce qu'elles ont bien eu lieu, ce sont des réalités. Et on nous dit, mais la réalité globale, c'est celle qui va arriver. Et nous voulons appeler chacun de nous à devenir sérieux avec cette affaire-là. Parce qu'il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvé à l'époque. Dieu a décidé de tout détruire à cause de la corruption qu'il y a dans l'être humain qui détruit tout. J'espère que vous êtes au courant de tout ce que Carl Zero dénonce. Le trafic d'enfants dans tous les pays du monde entier, notamment en grande partie aux États-Unis, des enfants qu'on élève pour faire des trafics, pour les violer, pour les faire des trafics dans des sectes de haut niveau. Et la quantité est astronomique, le nombre d'enfants qui sont enlevés chaque année dans tous les pays pour faire des trafics d'organes, pour faire des trafics dans la prostitution, mais pour les grands de ce monde. Vous connaissez l'histoire de Epstein avec son île où il prenait les adolescentes, les filles de 12 ans, de 10 ans, avec les Clinton, tous ces gens-là, pour en abuser. Ce sont des réalités. Et vous voyez, mettez-vous à la place de Dieu qui voit tout ça. Il est en colère. Il est en colère lorsque des gens qui cultivaient tout simplement leur champ se voient, par exemple, en Ukraine ou en Russie, être mêlés à une guerre qu'ils n'ont pas cherchée, décidée par des humains orgueilleux de deux côtés. Comme quelqu'un a dit, la guerre, c'est décidée par des gens qui se connaissent et elle est vécue par des gens qui ne se connaissent pas. Le soldat qui va aller combattre un autre soldat de l'autre côté, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont même pas cherché ça. Mais c'est les deux là, politiciens de deux pays différents qui ont décidé ça. Eux, ils se connaissent. Ils se sont vus dans des conférences. Ils ont mangé ensemble. C'est eux qui décident la guerre. Ceux qui la font, ce sont des gens innocents qui n'ont rien à voir avec tout cela. Quand Dieu voit ça, il est en colère. Quand Dieu voit le mal, comment il sévit aujourd'hui, avec les transgenres, l'homosexualité, tout ça. La fin de toute chair est arrêtée. C'est ce que nous venons de lire. Il y avait la violence sur toute la terre. Dieu a dit, c'est fini. Mais je veux d'abord sauver ceux qui veulent, avant de tout détruire. Noé, je vais tout détruire, mais je vais sauver quelques-uns. Qui voudront bien, alors construis l'arche et appelle les gens à y entrer. Et le frère Pierre, nous revenons maintenant à 1 Pierre 3. Le frère Pierre dit, Dieu a été patient, puisque l'arche a connu, et Pierre précise bien, lors de la construction. Vous voyez, c'est une révélation complète. Donc Pierre veut dire que pendant que Noé construisait, les gens voyaient, c'était un message. La construction de l'arche, puisque c'était un bâtiment immense, était un message pour tout le monde, pour dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que Dieu va envoyer le déluge. L'arche était un message. Pierre dit, mais c'était la patience de Dieu. Les gens devaient s'intéresser à leur salut. Mais ils n'ont pas voulu. Et Jésus leur a rappelé quand il est mort à la croix. Vous aviez l'arche comme message pendant environ 100 ans. Ça nous apprend quoi? 1. Dieu est amour. Parce que même Pierre dénonce la patience de Dieu. D'une certaine manière pour dire, il a été trop bon. Pendant que la patience de Dieu se prolongeait. Vous savez, Pierre a reçu une révélation forte concernant la patience de Dieu. C'est lui encore dans 2 Pierre 3, quand vous allez plus bas, il dit, les gens se moquent en disant, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Vous en parlez depuis longtemps. Il dit que Dieu est patient. Il veut que tout soit sauvé. Il en parle juste avant. Et là, il dit, mais cette patience, c'est pas la première fois. Même du temps de Noé, Dieu avait été patient. C'est cette patience qui nous a sauvés, vous et moi. Parce que s'il avait appliqué sa sentence, nous ne serions pas sauvés. Il est patient. Il est amour. C'est clair. Pendant presque 100 ans, en train d'attendre que les gens se convainquent de s'intéresser à cette arche, discuter, comprendre les choses, être d'accord finalement avec Dieu. Parce que, bien aimé, il faut être d'accord avec Dieu pour accepter le salut. Il faut faire le bilan de la situation. Il faut exposer l'état de la situation. Il faut que nous soyons d'accord, bien aimé, que la vie sur terre n'est pas une vie à vivre avec toutes les saletés qu'il y a. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus que nous en subissons déjà les effets par la maladie, par les combats de toutes sortes. Nous devons faire l'état de la situation et comprendre que il nous faut une autre vie, celle-là éternelle, sans maladie, sans péché, dans la félicité. Il faut que nous soyons d'accord sur le jugement de Dieu de détruire tout et de refaire autre chose. Il faut que nous soyons d'accord. Et ces gens-là devaient venir discuter avec Noé pour dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Noé allait leur dire, mais j'ai parlé avec Dieu. Et c'est ce qui se passait. J'ai parlé avec Dieu. Il m'a dit qu'il y a trop de violence. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ben oui. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de méchanceté. Dieu dit qu'il n'y avait que la méchanceté. Vous êtes d'accord? Alors, si vous comprenez qu'il y a tout ça, c'est à cause de ça que Dieu a décidé de tout détruire. Et il veut sauver un nombre de gens qui ne veulent pas de ce système de méchanceté, de violence, qui veulent la paix et la joie. Et les candidats sont priés d'entrer dans cette arche. Les gens, quand ils voient l'arche, ils se disent, mais Noé, tu parles de la pluie qui doit venir, mais là, on n'a pas encore vu de pluie hein, depuis que nous sommes ici. C'est la rosée qui fait germer les plantes, puisque avant Noé, on ne parle pas de pluie. Donc les gens se sont dit, mais on n'a jamais vu ça. Et puis quand même, entre nous, quelle est cette pluie qui va submerger la terre entière? Il faut que ça soit une pluie sérieuse, quoi. Et c'est le même langage qu'aujourd'hui. Les gens disent, mais après tout, on n'a pas... Qui a vu l'enfer, après tout? Même s'il y a des témoignages sur Internet, les gens qui ont vu l'enfer, mais les gens ont besoin eux-mêmes de voir. Ils ne veulent pas juste entendre quelqu'un qui a vu, puisque dans la Bible aussi, il y a ces témoignages-là des gens qui ont vu l'enfer. Après tout, bon... Qui est déjà parti au ciel? Bon, écoute, nous préférons ce que nous voyons. Nous préférons ce que nous touchons. C'est ça la réponse des gens. Et l'apôtre Pierre dit, ça sera très grave, parce que ces gens-là négligent le fait que le Fils, cette fois-ci, c'est pas une histoire de Noé, un humain simple. Cette fois-ci, c'est le Fils lui-même. Hein, nous allons lire le verset 18. C'est le Fils lui-même, le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. C'est pas Noé là, c'est pas un humain simple. Le Fils de Dieu est venu, il a donné sa vie, il est mort. Et maintenant, l'apôtre Paul dit dans Hébreux 10, et toi tu vas mépriser cette grâce-là. Attention, bien-aimés. Lisons 1 Pierre 3, 18.
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
L'apôtre Pierre dit ceci. Le schéma de Noé se répète avec Jésus, qui descend du ciel et qui le prouve qu'il descend du ciel par les miracles, par sa vie sans péché, par son amour pour tous les humains. Il prouve qu'il est Dieu lui-même, qu'il est Fils de Dieu, qu'il est descendu du ciel pour nous sauver. Il a dit, mais il ne s'est pas arrêté à descendre du ciel, il est parti jusqu'à la croix. Il dit, alors là, il ne faut pas s'amuser avec ça parce que, et là il nous rappelle, il dit, souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y a eu que 8 personnes, c'est Pierre qui le dit, hein? Il dit, peu de gens ont été sauvés, il n'y a que 8 personnes, dans laquelle un petit nombre, Pierre dit, un petit nombre a été sauvé, 8. Premier point, bien-aimé, Dieu appliquera sa justice, que personne ne nous trompe là-dessus. Dieu appliquera sa justice, même s'il faut que toute l'humanité soit détruite, elle sera détruite. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Toute l'humanité de l'époque a été détruite. Il ne faut pas rêver. Vous savez, il y a des gens qui traînent par rapport à l'évangélisation. Certains chrétiens qui sont là en train de se réjouir de leur salut d'une manière égoïste, autour d'une table, en train de commenter les événements chrétiens et ne priant même pas pour les perdus. Ne se consacrant même pas pour leur famille, afin que leur famille soit sauvée, ne prenant pas de mesures, des dispositions, afin que leurs enfants, leurs oncles, leurs tantes soient sauvés. Ils ne font rien, ils sont là, dans leur égoïsme. Et il y a comme une idée vague dans la tête, bon, Dieu, quand même, il ne va pas détruire tout le monde, quoi. Vous vous trompez, c'est possible. il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Il y en a aussi, au lieu de se convertir aujourd'hui, ils disent « je me convertirai dans 3 jours ». Ils croient vaguement en la bonté de Dieu, comme ça, qui va les attendre. Bien-aimés, il y a eu un jour où cette patience-là s'est arrêtée. L'apôtre Paul dit, Pierre dit, au temps de la patience de Dieu. Mais cette patience, vous êtes conscient qu'elle n'a pas dépassé 100 ans. Puisque on parle de Noé à 500 ans, ensuite il entre dans l'arche à 600 ans. Donc, après 100 ans, l'arche a été fermée, la patience s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Et il y a des gens qui sont là en train de dire vaguement comme ça, peut-être l'année prochaine je me convertirai, peut-être le mois prochain. Ces gens-là ne se rendent pas compte de qui on parle là, et à qui ils ont affaire. Ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui blague. C'est quelqu'un qui s'est permis d'éliminer tout le monde et de laisser que 8. Oui, il est amour. Oui, il est patient. Mais peut-il se contredire et tout détruire? C'est ça la logique. Si lui l'admettait, le péché, il détruisait tout finalement. Lui, il a créé tout pour que ça soit bon. Humble, paisible et rempli de joie. Vous vous dites, bon, pourquoi pas il va tolérer un tout petit peu de péché? Dans cette dimension-là, un peu de péché, ça détruit tout. Vous savez, nous transposons notre vie à la logique divine. Nous transposons, c'est ça l'erreur. Nous, il peut nous arriver que nous dînions même avec quelqu'un dont nous savons qu'il ne nous aime pas. Il peut nous arriver de dîner avec un cousin dont on a entendu qu'il nous a parlé mal de nous, mais on mange quand même avec lui. Et on croit que cette logique-là est possible au ciel. C'est impossible. Nous, les musiciens, nous le savons. En musique, une fausse note gâche tout l'ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes 20 musiciens et qu'il y a un musicien qui fait une fausse note, c'est lui le vainqueur. Le mélange entre le mal et le bien est en faveur du mal. C'est ça que nous devons comprendre. Demander à Dieu de mélanger le bien et le mal, c'est lui demander de se détruire lui-même. Et donc finalement de vous détruire vous-même aussi, de détruire tout. Lui dit non, je veux préserver tout le monde. On doit séparer le mal du bien. Donc on doit détruire. L'erreur c'est de se dire, mais il y a trop de monde à détruire. Mais c'est cruel. Ce n'est pas cruel, c'est salutaire. Parce que s'il ne fait pas ça, tout va alors être détruit. Surtout que il présente son amour. Il est patient. Il dit à tout le monde, j'ai décidé de détruire. C'est le moment d'être sauvé. Ne rêvons pas en nous disant, il y a trop de monde qui font le mal. Je ne pense pas qu'il va les laisser tous aller en enfer. C'est ça qui va se passer. S'il faut qu'il en sauve qu'une seule personne, il va le faire. Parce qu'autrefois, il avait sauvé que 8. Que 8. Faisons des suppositions. Admettons que, à l'époque, il y avait 1 million de personnes dans l'humanité. 1 million seulement. Quand il sauve 8, si on doit ramener ça au nombre que nous sommes aujourd'hui, admettons que nous sommes aujourd'hui 7 milliards, c'est ce qu'on nous dit. Nous sommes 7 milliards. Donc, vous prenez 1 million, vous multipliez par 1000, ça fait 1 milliard. Et puis, vous multipliez par 7, ça fait 7 milliards. On fait la même multiplication. Vous prenez 8 personnes, vous multipliez par 1000, ça fait 8000. Et vous multipliez par 7, ça fait 56000. Si nous respectons cette proportion-là de 8 de l'époque, ça veut dire qu'à notre époque, il n'y aura que 56 000 sauvés. 56 000. Est-ce que vous savez que la ville de Rouen,
c'est plus que 56 000 de personnes. Ça veut dire que dans toute l'humanité, il y aurait une ville, juste une ville plus petite que celle de Rouen qui serait sauvée. Vous vous rendez compte avec les Shanghai qui ont des 20 millions de personnes, les Mexico, les Tokyo, 20 millions, toutes ces villes-là. Donc quand on prend l'addition de toutes ces villes, il n'y aura qu'un nombre d'une, comme la ville de Rouen qui va être sauvée si on suit cette proportion. Bien-aimés, soyons sérieux avec cette affaire. Soyons sérieux avec la justice de Dieu. Dieu n'acceptera pas le mal. Vous savez, du point de vue d'un tiers-mondiste, d'un Africain ou de quelqu'un qui est au Bangladesh ou au Pakistan, vous savez, au Pakistan, il y a des gargotes, hein, des restaurants de rue où ils utilisent l'eau des caniveaux pour laver les assiettes. Après, ils mangent sur ces assiettes-là. L'eau sale, ils utilisent ça pour laver les assiettes. Maintenant, quand ces gens-là voient à la télé qu'en France, on a tué 1 million de poulets parce qu'il y a un microbe, une sorte de grippe, ils disent, mais attendez, c'est quoi ça? Ils n'ont qu'à nous donner, nous allons faire une bonne sauce avec ça. Vous voyez leur point de vue? Ils apprennent qu'en France, on a tué 1 million de poulets juste parce qu'ils ont une grippe. Et je vous dis, mais c'est quoi ça? Nous, on mange des poulets même qui ont peut-être le sida, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'ils vont se dire. C'est, mais les Français sont fous. Comment ils peuvent tuer 1 million de poulets? Imaginez le léopard qui suit ça à la télé, mais qu'on a tué 20 000 moutons. Parce qu'elles auraient une maladie. Mais attends, dis-nous à la forêt, si on mange des moutons, sans, il ne comprendra pas. Vous voyez, c'est ça qui se passe. C'est que nous, comme on est habitués à se mélanger méchant et bon, on ne comprend pas que Dieu puisse détruire autant. C'est ça la même logique. Les gens qui sont habitués donc à manger un poulet qu'ils ont ramassé dehors, parfois mort. Vous savez, en Chine ou au Vietnam, il y a des gens qui font des... Ils ramassent les chiens errants et puis ils vont les cuisiner. Ça fait un bon plat. En France, même une biche qui s'est retrouvée tuée par ton véhicule, mais tu n'as pas le droit de le manger, on va te dire les services d'hygiène, tout ce que tu veux. Mais là, c'est des chiens errants, donc ils mangent n'importe quoi. Qui ont toutes sortes de maladies. En Chine, au Vietnam, ils les mangent tranquillement. Maintenant, quand ils apprennent qu'on a tué 20 millions de, 1 million de moutons, ils tuent 1 million de poulets, ils se disent, mais c'est quoi ça? Il suffit de cuisiner et puis c'est tranquille. Ah non, la France vit dans une autre logique. Elle sait que si elle laisse faire, ça va finir par détruire tout le monde, toute la l'agriculture française. Voilà, Dieu sait que s'il laisse faire le mal, s'il tolère ce petit mélange-là, ça va tout détruire. Il ne peut pas nous suivre dans notre logique. Nous nous trompons, nous transposons notre vie à la vie du ciel. C'est une erreur, c'est une erreur. Nous nous disons, mais non, mais... 8 personnes, comment dire, 56 000, c'est impossible. Nous nous trompons, c'est possible. Dieu, lui, ne prendra que ce qui est bon. Il ne prendra que ceux qui sont sauvés par Jésus. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais quand même, il y a 1 milliard de catholiques, donc Dieu va les laisser aller en enfer. Mais, bien aimé, c'est écrit, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est écrit. Vous vous trompez dans votre logique en vous disant, mais 1 milliard de musulmans, Dieu ne va pas quand même les laisser aller en enfer. On se trompe. Ça sera le cas. Le frère Pierre nous dit, ça a été le cas du temps de Noé. Il n'a pris qu'une famille. Il n'a pris qu'une famille du temps de Noé. Une seule famille. Les gens pouvaient se dire, mais oui, mais il va quand même faire une petite sélection dans chaque famille. Non. Il ne prend que ceux qui entrent dans l'arche. Il y a un moine bouddhiste. Vous savez, il y a des gens dans leur pratique de vie comme ça. Ils ont même parfois une apparence de beaucoup plus de sérieux, de sainteté qu'un chrétien. Un moine bouddhiste, il a consacré sa vie, entre guillemets, à Dieu. Il ne se marie pas. Il sert seulement dans les prières. Il a une vie même de nourriture. Il mange que d'une manière saine. Et il a la foi pour dépendre des dons des gens pour vivre. Donc, ils vivent toute leur vie sans travailler. Ils dépendent des dons des gens. Et ils ont cette foi-là que les gens donneront. Donc, il se croit super saint. Mais un jour, il est mort. Il s'est retrouvé en enfer. Il avait beau expliquer. Hein, et il s'est retrouvé emprisonné par un démon 3 fois plus grand que lui, avec une constitution de dragon. Il avait beau expliquer à ce démon-là tout ce qu'il avait fait. Le démon-là lui a dit clairement, nous ne touchons pas à ceux seulement qui sont de Jésus. Tout le reste nous appartient. Dieu a eu pitié de lui, il l'a ramené à la vie. Cet homme était devenu un évangéliste fou. Il n'avait pas une vie comme nous, tranquille. C'était clair pour lui que les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'était clair pour lui que la discipline de prière ne sauve pas. Qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver Jésus. Il faut entrer dans l'arche. Et donc beaucoup de gens sont là en se disant, mais moi je ne fais pas de mal. D'ailleurs tel chrétien, lui je l'ai vu faire telle chose. Mais bien aimé, oui tu l'as vu faire telle chose. Mais lui il a donné sa vie à Jésus. Et quand il va confesser ses péchés, ils sont pardonnés. Nul n'est sauvé parce qu'il est parfait. Nous sommes sauvés parce que nous avons confié nos vies à Jésus-Christ. Tu es là, dans tes erreurs, tu vises les erreurs des autres. Pourquoi en un truc général comme ça, il suffit d'avoir un certain bon comportement pour aller au ciel? Tu te trompes. On ne va au ciel que par Jésus-Christ, en confiant sa vie réellement en Jésus, pas en prenant Jésus comme une étiquette religieuse, mais en confiant sa vie réellement en Jésus. C'est un appel à prendre au sérieux cette affaire-là. Jésus lui-même a prévenu qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi des pleurs et des grincements de dents? Parce que beaucoup seraient étonnés de ne pas être reçus au ciel. Beaucoup! Parce qu'ils n'ont pris Jésus que comme étiquette. Comme étiquette. Ils ont été actifs dans les églises, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. C'est eux-mêmes les chefs de leur vie. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Jésus leur dira ce jour-là, je ne vous connais pas. Vous vous souvenez de Matthieu 7, 21? Il dit que beaucoup diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, nous avons évangélisé, nous avons parlé de toi. Il dira, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas donné votre vie. Suivez votre chemin. Vous n'êtes pas entré dans l'arche. Je rappelle bien, mais 8 personnes, 8 seulement. Méfions-nous de cette affaire. Donnons nos vies à Jésus d'une manière totale. Jésus ne sauvera pas qu'un bras que tu as donné. C'est impossible. Il ne peut que sauver tout. Mais si toi tu lui as donné que ton cerveau et tu ne lui as pas donné ton cœur, il ne peut pas te sauver. Il te regarde. Le salut est facile, mais il faut qu'il soit total. Il est facile parce que c'est quelqu'un d'autre qui a payé à notre place. C'est ce que frère Pierre dit. Au fait, Pierre nous donne un avertissement grave. Il dit, si du temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées, maintenant que Dieu a donné son fils, il va être encore plus sévère. Parce que nous n'avons plus de raison, parce que Jésus est prêt à te prendre, à te nettoyer, et à te donner une nouvelle nature, et à continuer à te conduire. Vous voyez, service complet, complet, dès le départ, il t'attire, ensuite il te lave, ensuite il te transforme, il continue à te porter jusqu'au bout, tant que tu t'accroches à lui, Alors, quand tu refuses un tel salut, il n'y a plus de recours. J'en viens à tous les chrétiens qui sont réellement sauvés parce qu'ils se sont confiés en Jésus, mais qui négligent la question de l'évangélisation, qui négligent la question du salut des âmes, qui sont dans une vie de consommateur chrétien, au lieu d'être dans une vie consacrée. Jésus dit la lumière, on ne la met pas sous la table, en dessous de la table, on la met au-dessus. Le sel, quand il perd sa saveur, à quoi sert-il? Ils n'ont pas une vie chrétienne qui soit une lumière. Nous ne disons pas qu'il faut faire des exploits. Nous disons tout simplement qu'il faut que Jésus soit plein en toi. C'est lui qui brillera. Nous disons tout simplement qu'il faut vivre une vie chaque jour où tu te consacres à Dieu en disant, Seigneur, prends ma vie, fais de moi ce que toi tu as décidé. Je veux que ma vie serve au salut de beaucoup de personnes. C'est ce que le frère Pierre est en train de nous expliquer dans ce passage. Il veut nous dire, comme Jésus a laissé le ciel pour notre salut, nous aussi, nous devons, en tant que chrétiens, laisser notre vie à disposition de Dieu le Père, comme le Fils l'a fait, pour que le Père accomplisse sa volonté et sauve d'autres personnes. Dieu veut sauver des gens, mais il lui faut des gens comme Jésus qui laissent leur vie à sa disposition, pour qu'ils se servent de nous pour sauver d'autres. Je ne suis pas en train de nous demander de faire des activités. Je suis en train de nous demander de prendre au sérieux l'affaire et de dire une fois pour toutes, Seigneur, ça suffit. Je veux vivre que pour toi, pour que d'autres soient sauvés. Comme ton fils a fait pour moi. C'est ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit fera le reste. Mais dis-toi-même que, comme le frère Paul, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Acte 20, 24. Pourvu que j'accomplisse ma mission. Il ne fait plus aucun cas de sa vie pourvu qu'il accomplisse la mission comme quoi il est là pour être une lumière comme son Seigneur Jésus qui l'a sauvé. Il est là pour être un sacrifice pour que, entre les mains de Dieu, pour que Dieu soit glorifié dans le salut de l'humanité. Dieu, c'est comme si nous sommes des Noé à qui il a dit, je vais détruire. Et là, tu ne fais rien. Il dit, ah bon? Ah, c'est malheureux pour ces gens-là. Tu continues ta vie. Mais Noé, quand on lui a dit, je vais détruire, il a construit l'arche pour sauver des gens. Jésus, quand il a vu que son père allait détruire, il a dit, laisse un peu de temps que je descende, que je me donne en sacrifice. Peut-être croiront-ils et seront-ils sauvés. Et toi, Dieu te dit, je vais détruire. Vraiment, ça va être chaud. Hein? Mais attends, ça va être chaud pour les autres parce que toi, c'est bon pour toi. Non, bien-aimés, nos vies doivent servir comme celles de Jésus-Christ. Ne prenons pas la légère ces affaires-là. Beaucoup de gens vont être perdus. Beaucoup, beaucoup. Et nous sommes là en train de regarder en disant, ah oui, non, non, non. On doit dire, ah non, moi je vais en sauver quelques-uns. Même s'il faut construire l'arche pendant des années, il faut que moi, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Nous devons avoir la même réaction que le fils. Mais non, papa, c'est toi qui as créé tous ces humains. Nous n'allons pas les détruire comme ça. Laisse-moi faire encore quelque chose. Tu as déjà essayé avec Noé, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, laisse. C'est moi-même qui vais y aller. Vous voyez, c'est ça que Jésus fait. Il dit, maintenant c'est moi-même. Dans Hébreux 1, c'est écrit, autrefois Dieu a utilisé les prophètes. Maintenant, il utilise son propre fils. Maintenant, et toi, tu refuses, bien-aimé. Et certains chrétiens relativisent, comme les Billy Graham, j'ai oublié l'autre là, les prédicateurs de prospérité, qui disent, on peut aller au ciel autrement que par Jésus. C'est des fous. On ne peut pas aller au ciel autrement que par Jésus. Jean 14, 6 le dit clairement. Jean 3, 16 le dit. Romains 5 le dit. Au verset 12. Une seule personne a donné sa vie pour que nous tous nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore la force de parler, au moins prie pour que les gens se convertissent à Jésus. Mais ne te dis pas, oh Dieu, dans une certaine bonté comme ça, Dieu laissera quand même. On se trompe. Il y a eu 8 personnes seulement, 8. Toi, chrétien, tu fais partie de cette minorité-là. Toi qui te dis chrétien. Donc si on doit rapporter ça à maintenant, tu fais partie peut-être des 56 000. Tu fais partie peut-être de 1 million seulement. N'est-ce pas une grâce? Et cette grâce, tu veux la garder pour toi? Est-ce que c'est vraiment ça, une grâce qu'on reçoit? Non. Là, je te parle d'aujourd'hui. Mais si on doit revenir dans le passé. Puisque nous tous, nous avons eu des parents. Nos parents ont eu des parents. Tout ça arrive jusqu'où? Jusque dans ce que nous venons de lire dans Genèse. Donc nous faisons partie de qui? Des descendants de qui? De qui? Des 8 personnes. Ah, réfléchissez à ça. Nous sommes des descendants de ces 8 personnes-là. Nous sommes les seuls. Nous avons eu des ancêtres qui étaient les seuls à accepter à entrer dans l'arche. Nous sommes leurs descendants. Et nous, nous ne nous préoccupons pas de ce que les gens entrent dans l'arche. Alors que nous sommes les descendants des 8. Nous sommes les descendants des 8. À quoi ça va servir? Ça aurait servi que nos ancêtres, les 8, soient entrés dans l'arche pour que, finalement, nous, les arrière-arrière-arrière-arrière-petits-fils, ne soyons pas sauvés. Donc tu es là, tu fais partie de la famille des 8 et qui ont été sauvés autrefois. Aujourd'hui, toi, tu vas te laisser perdre. N'est-ce pas la folie? Tu fais partie de la famille des 8 et maintenant, aujourd'hui, toi, tu ne travailles pas alors que ton papa Noé, ton ancêtre, lui, il avait travaillé pour le salut. Nous faisons partie des 8. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Notre ancêtre a construit l'arche. Bien-aimé, je ne mets la pression sur personne. Je partage ce que Dieu m'a dit. C'est tout. C'est tout. Notre vie doit être consacrée à Dieu pour le salut de l'humanité, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le reste est secondaire. Je dis bien tout le reste, sans exception, est secondaire. La priorité, c'est que les gens entrent dans l'arche. C'est cela, bien-aimé, que l'on retrouve partout dans la Bible avec nos prédécesseurs, Jean, Pierre, Paul. Tous ces gens-là ont vécu en priorité pour cela. Nous nous laissons distraire par beaucoup de choses. Des polémiques entre églises, des luttes entre pasteurs, des luttes entre chrétiens, des gens qui cherchent des miracles, des gens qui sont distraits par le parler en langue. Par ceci, par cela, le vrai problème. Est-ce que pour entrer dans l'arche, c'est une question de parler en langue? Nous sommes distraits par le matériel. Puisque l'un a acheté une maison, toi aussi tu vas acheter une maison. C'est la distraction, cette maison ne va pas entrer dans l'arche. C'est l'individu, c'est l'âme qui va être sauvée. Nous sommes distraits. Puisque l'un est marié, moi aussi je dois me marier. Mais tout ça, nous sommes des pasteurs. Et je peux vous dire que les gens cherchent à se marier et ceux qui sont mariés cherchent à divorcer. Tout ça c'est secondaire. La vraie véritable vie, c'est vivre pour Christ, comme lui l'a fait pour nous. C'est ce que notre frère Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14. Il dit l'amour de Christ nous presse, ça nous presse. Tu te dis, ah, dans mon péché, il a quand même accepté de me sauver. Dieu a été patient envers moi. Nous faisons partie des gens que Dieu a sauvés dans son temps de patience. On se dit, quelle grâce, Jésus. Tu n'as pas arrêté les choses pendant que j'étais inconverti pour que tu aies le temps de me sauver. Maintenant que j'en prends conscience, je prends conscience de faire partie des descendants de Huit. Je prends conscience même à notre époque d'être la petite minorité qui est encore, qui est sauvée. Je veux mener une vie sans reconnaissance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait toute une population humaine, on n'a gardé que 8. Donc ces 8-là devaient avoir quelle reconnaissance envers Dieu. Regardez, il est écrit clairement, l'arche est le chemin qui mène à la perdition. Et toi est le chemin qui mène au ciel. Peu de gens le trouvent. Donc jusqu'aujourd'hui, cette même règle continue. Tu fais partie du peu de gens. Et ta reconnaissance, c'est vivre en égoïste. C'est te préoccuper que des choses concernant ta vie personnelle. Non, bien-aimé. La vraie vie, c'est de vivre pour Jésus. Comme un sacrifice, afin que sa volonté de sauver l'humanité s'accomplisse. C'est ça la vraie vie. C'est ça qui a du sens. J'ai été sauvé pour que appartenir à mon maître. Tout ce que je vous dis là, bien-aimé, c'est écrit, le frère le dit. Vous avez été sauvé à grand prix, vous ne vous appartenez plus. Donc, dis-toi bien qu'à chaque fois que tu décides par toi-même, tu es en train de manifester une forte ingratitude. À chaque fois que tu fais les je, tu es ingrat. Nous devrions laisser le Seigneur, comme le Fils a dit au Papa, que ta volonté s'accomplisse. Et même quand il nous laisse la prière, il dit, priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Sur la terre, mais tu es sur la terre toi aussi, donc dans ta vie, que sa volonté s'accomplisse. Mais nous prenons des décisions, nous faisons des projets. L'apôtre Jacques a dit, vous faites des projets sans consulter Dieu. Vous rendez pas compte du choc que c'est de faire partie des 8. C'est un choc. C'est pas possible. C'est le choc de quelqu'un qui a gagné à la loterie. 20 millions de personnes participent à la loterie et c'est toi qui gagnes. C'est ça qui nous arrive là. C'est un choc. C'est pas possible. Tu ne peux penser qu'à celui qui t'a fait cette grâce là. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Tu m'as fait grâce. Je ne sais pas quoi te donner que ce que toi-même tu as fait comme grâce. Moi-même prends. Mais non, les gens, ils ne se rendent pas compte de la perdition des autres. Toute cette foule qui se perd. Jésus a failli pleurer en disant, il voyait une foule immense, comme des brebis sans berger. Parce que les chrétiens qui ont au moins leur salut ne veulent pas donner leur vie à 100%. Bien-aimés. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, prends. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Aimé, que chacun prie pour ceux qui ne sont pas encore convertis, qu'aujourd'hui tu donnes ta vie au Seigneur. Le temps de patience ne va pas se prolonger indéfiniment. entre dans l'arche du Seigneur. Prions aussi pour ceux qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas pris au sérieux ces affaires-là. Je répète, nous ne demandons pas à faire des activités, mais que tu dises au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Désormais, je veux que ma vie soit remplie de toi et que tu l'utilises au maximum selon ton but de sauver l'humanité. Ça pourrait être plusieurs choses. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans une rue à distribuer les tracts. 20 ans. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce qu'ils voyaient, comme nous disons dans le champ, en marchant dans le chemin, je vois tous ces gens-là, je me dis, mais ils vont en enfer. Mais même rien qu'une prière. Tu es dans le train, quand le train s'arrête à une ville, tu vois tous ces gens. Avant que le train redémarre, tu dis, Seigneur, agis dans cette ville où tu as fait arrêter le train. C'est-à-dire qu'il faut, quand on se promène, nous devons nous dire, mais on doit se dire, mais tous ces gens-là vont en enfer. Que dois-je faire si il n'y a pas un élan pour faire quelque chose, mais du moins prier. Être là dans le cœur, dire à Dieu, mais je ne suis pas d'accord que tous ces gens-là soient perdus. Je ne suis pas d'accord. Agis dans ton amour. Fais quelque chose. Travaille, Seigneur. C'est ce que nous voulons demander à travers cette prière. Que nos vies soient Dieu, comme il a disposé de la vie de son Fils, qui dispose de nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, comme tu as disposé de la vie de Jésus, il n'a pas discuté. Il a accepté pleinement ta volonté. Dispose de nos vies. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, dans l'arche, entre un certain nombre de personnes qui n'y sont pas encore entrées, qui sont en train de nous écouter en ce moment, qui se décident, qui se disent, Jésus, à partir d'aujourd'hui, prends ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Je veux comme... Je veux faire partie des 8. Je veux arrêter de me diriger moi-même. Oh Seigneur, prends ma vie dans ton amour et fais de moi un instrument entre tes mains, obéissant pour pouvoir atteindre tes objectifs à toi de salut de l'humanité. Que la mort de Jésus, ton Fils, ne soit pas vaine, Seigneur, dans ma vie. Qu'elle serve à quelque chose, comme le frère Paul dit, la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. Seigneur, nous ne voulons pas recevoir la grâce et l'utiliser pour servir le monde. Nous voulons recevoir la grâce et l'utiliser pour servir la grâce, pour servir Jésus. Oh Seigneur, prions que Dieu nous délivre de faux raisonnements qui nous poussent à croire que, comme les chants du monde disent, ah mais on ira tous au paradis. Ce sont des faux raisonnements, des idées. Comme nous aussi, nous nous mélangeons parfois dans la famille des bons et des mauvais. Nous pensons peut-être que ça sera à peu près comme ça. Que Dieu nous libère de toute forme de faux raisonnements qui peut retarder son action. Hein, parfois tu veux prier, mais bon, tu t'intéresses à autre chose parce que il n'y a pas vraiment l'idée du salut. C'est comme si tu te disais, mais ce sont les affaires de Dieu lui-même. Non, non, non. Ce sont des faux raisonnements qui freinent l'action de Dieu dans nos vies. Seigneur, nous prions que tu nous libères des faux raisonnements, des fausses attitudes, des fausses conceptions qui sont un frein pour le zèle total, qui sont un frein. Certains, peut-être parfois, ils se disent, mais moi je suis au ménage, ça sert à quoi par rapport au salut? Ce sont des faux raisonnements, parce que ce que tu attends, c'est que nous soyons entiers pour toi, et c'est toi qui te sers de nous pour contribuer à tout cela, Seigneur. Que nous puissions nous avoir le souci du salut des humains, et te dire, Seigneur, moi, je n'ai qu'une guitare, je la mets à disposition pour que ça contribue. Seigneur, moi j'ai mes bras, je peux porter les cartons des instruments. Seigneur, mais que nous tous nous travaillons pour que l'évangile soit annoncé à tous. Que tout le monde sache que cette fois-ci c'est pas Noé, mais c'est le Fils même qui est venu. Que tout le monde sache que le salut est possible, quel que soit le niveau de péché, Seigneur. Manifeste-toi. Libère-nous de faux raisonnements. Remplis-nous de l'esprit d'évangéliste, de l'esprit d'évangélisation. de la logique de la croix, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Le frère Paul a dit, soit que nous mourions, soit que nous vivions, que ce soit pour toi et toi seul. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.